19 juin 1984 à Saint-Joseph.
Saint Ambroise a fait appel à cette division du bien, simplement, tradition. Et voici le raisonnement de saint Thomas. Il semble que cette division convienne en propre au bien humain, non au bien en général qui nous occupe. Toutefois, alors c'est là où il faut bien comprendre le point de vue de saint Thomas. Sitamen alcius et communius considerimus rationem boni. In venitur ex divisio proprie competere bono, secundum quod est bonum est. Donc, si on regarde attentivement, si on regarde dans un regard alcius, et communius, considerimus rationem boni, si on considère la raison de bien d'une manière plus haute et d'une manière plus commune, alors on peut dire que cette division regarde le bien comme bien. Alors, il dit, c'est curieux à bien préciser. In venitur ex divisio proprie competere bono secundum quod bonum est. Considérer le bien selon qu'il est le bien. Je crois que c'est bien la ratio boni. Ou bien, est-ce que on a là quelque chose d'analogue à la distinction qu'on fait entre la ratio entis et l'ens in commune. Vous voyez ? Parce que j'avoue que c'est très difficile à bien comprendre cet article. Alors, regardons, et puis on va essayer de voir. Ce qu'il ne dit pas ratio boni. Il dit le bien en tant que bien. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Alors, il nous dit ceci, car le bien est quelque chose en tant qu'il est appétible. Donc, bonum est aliquid, in quantum est appétibile. On sait ce que ça représente d'une façon générale par rapport au bien, et qu'il est le terme du mouvement appétible. Bon. Le bien comme tel est appétible, il est appétible, et il est le terme du mouvement de l'appétit. Je vais l'appeler. J'en vais essayer de comprendre ce que ça veut dire progressivement. Curius quidem motus terminatio potes considerari ex considerazione motus corpore. Motus corporis naturalis. Donc, il est le terme du mouvement. Le motus du mouvement de l'appétit. Mais on va regarder ce mouvement d'appétit selon l'analogie du mouvement physique. Alors, pourquoi ça va reposer ? Il y a l'analogie entre les deux. Bien comprendre le raisonnement de saint Thomas. Cuius quidem motus terminatio, donc la terminatio de ce mouvement, peut être considérée de la considération du mouvement du corps naturel. Or, le mouvement du corps naturel est terminé simpliciter quidem ad ultimo. Donc, si je regarde le mouvement physique, le terme du mouvement physique, le terme, je pense que c'est simpliciter. Le terme du mouvement physique simpliciter, il est ce qui est ultime. Simpliciter, c'est le point de vue ultime. Secundum quid. Secundum quid. Etiam ad medium. Donc ce n'est plus ultime, mais c'est le moyen terme. Per quod, par lequel itur ad ultimum quod terminat motum. Donc, avant d'arriver au terme, on passe par le moyen terme. C'est tout simplement les gares intermédiaires. Hein. Je m'arrête à cette gare intermédiaire. Donc, cette gare intermédiaire n'est pas le terme. Mais c'est par elle que je vais aller là.
Fribourg à Paris via Lausanne. Via Lausanne. Bon, alors via Lausanne, ils ont moyen terme. C'est évident. Je pourrais m'arrêter, mais c'est via moyen terme. Si c'est comme ton dicitur aliquis terminus motus, in quantum aliquem partem motus termina. Donc il est bien le terme du mouvement, parce qu'il termine une certaine quantité du mouvement. Cela aut id autem quod est ultimus terminus motus, pot est accipi dupliciter, le terme ultime. Peut-être pris de deux manières. Id quod autem, donc ce qui est le terme ultime du mouvement, peut être accepté de deux manières. Ou il est la réalité, la res, en laquelle tenditur. Donc c'est la res vers laquelle on tend, en laquelle on tend. En tant que le lieu, ou la, en tant que ce soit le lieu ou la forme. Ou il est le repos dans cette chose. Je me repose dans ce terme. C'est la reste ou le repos. Je vais expliquer. Nous analysons là, le raisonnement de saint Thomas pour essayer de comprendre comment on peut aboutir à dire que cette division classique d'Aristote sur le bien humain peut être transposée comme une division du bien en tant que bien. Alors, quel est le raisonnement que les internautes ? C'est extrêmement curieux. C'est intéressant, ça vaut la peine d'être étudié, ça, comme mouvement, parce que c'est le dépassement de la pensée d'Aristote que Saint-Thomas veut nous montrer. Comment on pouvait dire que cette division qui, pour Aristote, est une division au niveau du bien humain, en réalité, pour Saint-Thomas, ce n'est plus une division du bien humain. C'est une division du bien en tant que bien. Sic ergo, in motu donc. Voilà l'analyse du mouvement physique. Alors maintenant, nous revenons. C'est toujours une analogie. Maintenant, nous revenons. Sic ergo in motu appetitus. Ainsi donc, dans le mouvement de l'appétit, cela qui est l'appétit. Terminans motu appetitus secundum quid. Donc l'appétit en tant qu'il termine secundum quid. Via Lausanne. Alors l'appétit en tant qu'il est un moyen terme second. Donc cela qui est l'appétible terminant le mouvement de l'appétit secundum quid, comme le médium, comme le métaxu, par quoi on tend dans l'autre. C'est appelé l'utile. Cela qui est désiré comme ultime. Cela qui est terminé comme ultime. Totaliter motum appetitus, donc terminant d'une façon absolue le mouvement d'appétit, comme une certaine réalité en laquelle l'appétit tend d'une façon essentielle, percée, correspond au simplitude et qui est en opposition au secundum quid, est appelé le bien honnête, honestum. Cela qui termine le mouvement d'appétit comme le repos dans la réalité désirée, delectatio. Ceci, c'est la fesse, et ceci, le repos. Délectatio. Vous avez donc délectatio, honestum, utile. La transposition des trois. Je reprends pour que vous voyez bien. On va essayer de prendre une distinction classique d'Aristote. Le bien où il est honnête, utile, délectable. Aristote a pris cette distinction pour montrer les trois espèces d'amitié. L'amitié honnête, l'amitié délectable, l'amitié utile. Et Aristote textuellement dans l'éthique qu'il s'agit d'une division du bien humain. Saint Thomas reprend ceci comme une division classique et nous dit qu'en réalité, on peut, ainsi, cette communion, si on s'élève un peu plus haut, si on va dans les altitudes un peu plus loin, donc regarde de sagesse. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Regarde de sagesse. Ou regard métaphysique, alors que pour Aristote, ce n'était pas un regard métaphysique, c'était un regard éthique. Saint Thomas ne précise pas, il dit simplement qu'Alcius est communiste. Si je m'élève un peu plus loin, je m'aperçois que cette distinction utile, honestum, délétère, est une distinction qui regarde le bien comme tel, et non pas seulement le bien humain. Comment le prouver? C'est de montrer que l'appétit et ce qui est source, puisque le bien est appétible, source d'un mouvement. Le bien en tant qu'appétible est source d'un mouvement. Ou plus exactement, le bien en tant qu'appétible est terme du mouvement de l'appétit. C'est vrai qu'il est terme et il est source. Le bien m'attire. Pourquoi qu'il m'attire? Parce qu'il est appétible. Donc il m'attire. Et je me repose en lui parce qu'il est appétit, parce qu'il est mon bien. Donc, il est terme. Or, si je regarde terme de ce mouvement de l'appétit, l'analogie avec le mouvement physique, le terme du mouvement physique, dans un mouvement physique, je peux regarder le terme psychicutaire, c'est-à-dire le terme ultime. Je peux regarder le terme secundocule, donc le terme intermédiaire, moyen terme. Je vais, simplement, il y a simplement dans la vision, je vais de Fribourg à Paris. Le terme du départ de Fribourg, c'est Paris. Et puis, il y a une voie intermédiaire. Hein? Je passe par Lausanne. Bien, si vous voulez, de Lyon à Paris, par Roanne, par Mâcon. Vous voyez la bifurcation. Via Roanne, via Mâcon. Il y a deux intermédiaires, mais le terme est le même. Hein. Paris, c'est le terme ultime, simplicitaire. Hein. Tout va vers Paris. Bon, c'est très bien. Le terme ultime, simplicitaire. Donc, c'est vraiment le terme ultime. L'intermédiaire, c'est Cotonou, c'est un moyen terme. C'est un moyen terme. Je passe à travers ça. Le terme ultime peut être regardé de deux manières, la réalité, c'est-à-dire Paris, ou le repos dans cette réalité. Parce que c'est le terme ultime, je m'arrête, je me repose. Vous voyez cette chose curieuse, hein? C'est très curieux comme chose. Premièrement, l'analogie avec le terme du mouvement physique. Est-ce que c'est une analogie réelle ou une analogie métaphorique? Entre le mouvement de l'appétit volontaire et le mouvement physique, est-ce que c'est vraiment une analogie propre? Ou est-ce que c'est une analogie métaphorique? Je crois que c'est une analogie. Intervenir comme ça, transposer dans un raisonnement tout à fait métaphysique, tout le reste est propre métaphysique, de se servir de ça. Enfin, je pose la question, hein. Je pose la question, est-ce que cette analogie est-elle une analogie propre ou une analogie métaphorique? Vous voyez la différence, hein. L'analogie métaphorique, c'est quand il y a un élément sensible qu'on transpose dans l'élément spirituel. Le mouvement, le terme du mouvement appétit, ça fait la volonté. Donc je suis au niveau spirituel. Et ici, je suis au niveau proprement physique. Alors, c'est curieux, premièrement. Première chose qu'on voit. Deuxièmement, quand j'analyse le terme du mouvement physique, je vois qu'il y a un terme essentiel, simplicitaire, qui est un terme essentiel. Puis un terme secundum quid. Le terme secondum quid n'est pas Le pronom express, c'est ça. Donc, il n'y a pas nécessairement intervention. C'est secundum quid. C'est un terme second. Si c'est un terme secundum quid, il n'analyse pas essentiellement la pupille. Secundum quid, ça veut dire justement accidentel, c'est une chose seconde, quoi, c'est pas premier. Le lien de Silvichter, c'est un lien de personnalité, secundum quid, c'est par accidence. Comment le per accidens peut-il intervenir directement dans une division essentielle? C'est réellement ça. Je vous demande d'y réfléchir, parce que c'est difficile de critiquer simplement. J'avoue que je ne comprends pas le secundum quid qui intervient dans une division essentielle. Ou bien non, je suis tout à fait dans un point de vue descriptif et métaphorique. Alors, dans un point de vue descriptif et métaphorique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, à la place de parler d'un ratio volume, la ratio volume a rien d'accidentel. La ratio boni évacue tout secundum quid. Autrement, ce n'est pas ratio boni. Ça évacue tout secundum quid. Donc, ça évacue toutes les choses secondaires. On est vraiment dans la ligne du percé. Et c'est peut-être pour ça que ça ne demande pas de ratio boni, mais parle vraiment du bien en tant que bien. C'est-à-dire le bien incommuné. Incommuné. Comme est incommuné. C'est le point de vue d'extension. Et ici, c'est le point de vue de la pénétration. Si c'est le point de vue d'extension, ah, je comprends. Alors là, il n'y a plus aucun problème. Le bien, dans toute son extension, peut-être la pétille qui termine, peut-être la pétille dont il repose, peut-être le moyen terme. Alors c'est bien incommuni, pris d'une façon tout à fait commune. Partout où il y a bien, partout où il y aura bien, je trouverai l'appétible, et je trouverai l'appétible de trois manières différentes. Je trouverai l'appétible en tant que les termes essentiels, comme la res, comme le repos, ou je trouverai le terme en tant que secundum quid. Donc, vous voyez ça, je crois. Si vous ne voyez pas, dites-le. Parce que c'est intéressant comme analyse de saint Thomas. Nous partons d'un préjugé normal, étant donné que toute la question est sur la ratio boni. Subitement, on arrive à un article dernier où, sans crier gare, saint Thomas intervient dans cette division bien honnête, bien utile, bien véritable. Si j'interprète en fonction de la ratio boni, je dis ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que saint Thomas fait intervenir dans la division quelque chose qui est secundum quid. Le secundum quid n'a rien à voir avec la ratio. C'est impossible. C'est quelque chose de secondaire, c'est quelque chose d'accidentel. Et on comprend très bien, c'est quelque chose d'accidentel. Dire que c'est l'utile qui fait comprendre ce que c'est que l'appétit du bien, je dis non. C'est pas l'utile qui fait comprendre l'appétit du bien. Ça me fait comprendre l'extension du bien. Ah oui. Le bien dans toute son extension inclut l'utile. Mais le bien dans ce qu'il y a de plus profond est au-delà de l'utile. C'est le terme. Le terme, je comprends bien qu'on puisse prendre les deux aspects, reste et repos. Oui. La réalité qui termine, donc qui attire, c'est bien celle-là qui est essentielle. L'aspect du sujet, c'est déjà un tout petit peu second. C'est l'aspect. L'aspect du repos, je veux dire, c'est un aspect subjectif. Alors vous voyez, il y a deux choses qui me heurtent, trois, dans cet article. Il y a trois choses qui me heurtent. Je n'ai pas d'avis, vous me le direz. Il y a trois choses qui me heurtent. Je lis loyalement Saint-Thomas, avec la docilité la plus grande qu'il faut. Il y a trois choses qui me heurtent. Premièrement, l'analogie entre les deux. Deuxièmement, le secundum quid qui intervient dans la ratio, si c'est la ratio venue. Et troisièmement, l'aspect subjectif, le repos. Donc trois choses qui me semblent ne pas être la rigueur de la ratio venue. Alors, si je prends votre hypothèse, qu'il ne s'agit plus de la ratio boni, mais qu'il s'agit tout simplement du bien dans toute son extension, alors à ce moment-là, les trois choses ne me heurtent plus. Parce que dans toute l'extension, le secundum quid fait partie de l'extension, l'aspect subjectif fait partie de l'extension, et l'aspect de l'analogie métaphorique fait partie de l'extension. Parce que ce qui est du côté de l'extension est toujours quantitatif. Alors, dès que je suis dans un raisonnement quantitatif, je peux me servir d'une analogie métaphorique. C'est pas gênant. Ce qui me permet, vous voyez, d'interpréter ce passage de saint Thomas, non pas la ratio boni, mais le bien dans toute son extension. Alors, on va voir les réponses. J'ai voulu voir ça d'abord avec vous, on va voir la réponse aux objections. Puis vous y réfléchirez, ça vaut la peine. C'est un article très intéressant. Je ne crois pas qu'on a beaucoup écrit là-dessus. Si vous avez des articles qui ont été écrits là-dessus, ça m'intéresserait, parce que c'est intéressant de voir ça. C'est un article que... Moi, ça m'a toujours beaucoup étonné, cet article. Beaucoup étonné, parce que c'est quand même très curieux. D'abord, c'est très très rare que saint Thomas montre qu'il faut un regard ansius et communius. Consideremus rationem boni. Il dit rationem boni. Hein. Et juste après, in venitur individuo propriae competens bono secundum quam bonum est. Le bien, tant qu'il est bien, ça peut s'entendre du côté de l'extension. Mais il dit ratio avant. Alors c'est gênant. Et je vous dis, si je crois ratio, c'est très difficile. Alors, réfléchissez. Je prends les objections maintenant, puis nous reviendrons au terme. C'est pour avoir un petit peu à réfléchir sur saint Thomas. Il ne faut pas prendre béatement saint Thomas. Hein. Saint Thomas n'aime pas qu'on prenne béatement. Saint Thomas veut que nous réfléchissions à partir de lui. Et qu'on se fasse les dents. C'est du granit, hein. Ça tient, et ça tient fortement. Alors il s'agit de comprendre ce que ça veut dire. D'après le philosophe, le bien se répartit selon les 10 prédicaments. Or, l'honnête, l'utile, l'agréable ou délectable peuvent se trouver en un seul prédicament, ce qui se trouve une division incorrecte. Alors, réponse. On ne nie pas que le bien, selon qu'il coïncide réellement avec l'être, ne se divise comme lui en 10 catégories. Bonum in quantum est idem subjecto cum ente dividitur per decem predicamenta. Mais, puisque le bien, attribut spécial de l'être, hein, le bien, attribut spécial de l'être, c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? C'est dommage, puisque je ne sais pas ce que sera la nouvelle traduction, mais parce que c'est pas ça. Hein. Mais selon sa propre raison, alors la propre raison, hein, ce n'est pas le bien attribut spécial de l'être. C'est autre chose, c'est la raison propre du bien par rapport à l'être. N'en garde pas moins sa nature propre. Il y a lieu de lui trouver une division également propre, et celle-ci lui convient. Ah, très éclairant, ça. Vous voyez bien comme c'est éclairant. Saint Thomas fait l'analogie entre la division de être, vie, prédicament, et bien, le droit. C'est l'analogie qu'il fait. Or, l'analogie des 10 prédicaments, est-ce que c'est la division de la ratio entis? Ou c'est tout simplement la division de S in commune. Les 10 prédicaments divisent l'être dans son extension, mais ne divisent pas l'être dans sa compréhension. La ratio 10 n'implique pas la qualité. La ratio 10 n'implique pas la quantité. C'est-à-dire que la substance. Vous voyez comme c'est éclairant ça. Donc, ad primum. Hein. Alors, seconde raison, seconde objection. Toute division s'établit par des oppositions d'objets ou d'éléments qui s'excluent l'un l'autre. Or, on ne voit pas d'opposition exclusive, car, par exemple, les biens qualifiés honnêtes sont aussi délectables et rien d'opposé à l'honnête n'est vraiment utile. Ce qui ne devrait pas être, s'il s'agissait des termes d'une correcte classification. Cicéron lui-même fait cette remarque dans son livre des devoirs, donc dans son livre des offices. Réponse. Il est vrai qu'une division s'établit par des oppositions. Ça, c'est de la logique. Hein. C'est en logique qu'on étudie quelles sont les règles d'une bonne division. Il faut savoir ça sur le bout de ses doigts. Vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas fait la logique de la division. Division, cette division n'est pas per oppositas res, mais per oppositas rationes. S'il est vrai qu'une division s'établit par des oppositions, mais il n'est pas nécessaire que ce soit par des oppositions des réalités. Il suffit d'une opposition de notions, d'aspects, là où c'est un aspect des réalités qui est en cause. Donc, une véritable division se fait non pas nécessairement par des oppositions des réalités, mais par une opposition des rationes. Pourquoi ? Parce que la division est une opération d'intelligence. C'est l'intelligence qui divise. Tandis que les réalités s'opposent dans leur existence propre, indépendamment de l'intelligence. Donc une véritable division se fait toujours par des oppositions des rationes. Ça, c'est très, très important de se le rappeler. Très important pour la dialectique, n'est-ce pas ? Il suffit d'une opposition de notions, d'aspects, là où c'est un aspect des réalités qui est en cause. Toutefois, d'après ce qui précède, on appellera proprement délectable des choses qui n'auraient rien de délectable, en dehors du plaisir qu'on y trouve, ces choses pouvant être par ailleurs nuisibles et sans valeur en elles-mêmes. On appellera utiles, dans le même sens exclusif, des choses qui, de soi, n'émeuvent pas le désir, mais qu'on choisit parce qu'elles en procurent d'autres, comme une potion amère. Le remède, hein. On vous donne un remède. Vous direz, oh, je l'aime pas, donc je ne le prends pas. C'est-à-dire, attention, il faut prendre ce remède pour sa santé. Donc le remède par lui-même n'est pas délectable. Il y a des remèdes aujourd'hui qu'on rend délectables, mais le remède par lui-même n'est pas délectable, si on est dans la vérité, parce qu'il est bon en fonction d'autre chose. Enfin, on réserve le nom d'honnête aux choses qui ont leur prix en elles-mêmes, en tant qu'objet de désir. Donc, voyez comment Saint Thomas ici répond. Des contours t'amènent illa proprié delectabilia, donc c'est la raison même de délectable, qui n'ont aucune raison d'appétibilité, si ce n'est la délectation, comme quelque chose sont, comme peut-être des réalités qui sont mauvaises. Utiles sont dits qui n'ont pas en elles-mêmes d'où elles sont désirées, et désirables et honnêtes qui en elles-mêmes ont leur raison d'être désirées. Donc saint Thomas rappelle que cette division se prend du côté des rationes. Ça, évidemment, c'est bien plus difficile. Si elle se prend du côté des rationes, ça doit diviser la ratio boni. Les rationes, qu'est-ce que c'est que la raison de délectable ? La raison d'utile et la raison d'honnête. Ces raisons prises en elles-mêmes, hein, c'est bien ce qui est dit, ces raisons, donc c'est pas des oppositions par rapport aux réalités, mais c'est des oppositions par rapport aux rationes. La raison délectable est autre que la raison d'honnête, est autre que la raison d'utile. À ce point de vue-là, elle divise bien le point de vue de l'appétibilité. L'appétibilité se présente de trois manières différentes dans les rationnels. L'appétibilité utile, c'est celui qui n'a aucune appétibilité percée. Toujours Peyralinde. L'utile, par définition, c'est pas quelque chose qui n'est pas par soi. L'utile, c'est par définition, c'est pas quelque chose qui est appétible par soi. C'est quelque chose qui est appétible en raison d'un autre. C'est ça le propre de l'utile. Donc, le lien entre appétible et utile, c'est pas un lien de perséité. C'est à cause d'un autre, c'est Peyralinde. La pénibilité de l'honnête, ça, c'est direct. L'honnête, c'est ce qui est appétible par lui-même, per se. Et le délectable, c'est celui qui est appétible, non pas parce qu'il est appétible par lui-même, mais appétible subjectivement. Parce qu'une chose délectable n'est pas nécessairement honnête. Elle est délectable, mais pas nécessairement honnête. Donc, elle est l'appétibilité par rapport au sujet, mais pas nécessairement objectivement. Donc, les trois rationnels vivent bien l'appétible, selon les trois moyens dont l'appétible peut s'exercer sur moi. L'appétible, c'est ce qui éveille en moi l'amour directement. L'appétible, c'est appétible par un autre, c'est utile. Et l'appétible délectable, c'est celui qui éveille en moi une certaine satisfaction, mais subjectivement, pas objectivement. Donc, au niveau des rationnels, je comprends. Alors, je reviens au même problème. Ici, il s'agit donc de trois rationnels de l'appétibilité. Donc, il s'agit bien d'une division de la ratio appétibilité. J'espère que vous voyez. C'est très subtil, hein, ça, je suis tout à fait d'accord que c'est très subtil. Mais je crois que ça vaut la peine hein, d'essayer de comprendre ça, parce que c'est quand même important. Alors voyez que cet ad secundum essaie de nous donner que cette division se prend au niveau des rationes et non pas au niveau des choses. Parce que la même réalité peut être délectable, peut être honnête, peut être utile. Ce que Aristote dira pour l'amitié honnête. Dans l'amitié honnête, l'ami, c'est ce que je désire le plus, c'est la réalité la plus délectable pour moi et la plus utile. Parce que je peux tout demander à un ami. Donc il n'y a pas de division, il n'y a pas d'opposition. Or, toute véritable division implique des oppositions. Alors, Satan me répond, attention, il ne s'agit pas d'opposition à l'égard des res, des réalités, il s'agit d'une opposition à l'égard des rationnels. S'il s'agit d'une opposition à l'égard des rationnels, c'est donc une opposition formelle, et non pas une opposition à l'égard des extensions. Alors, qu'est-ce que vous répondriez dessus? Attention, Satan me répond strictement au niveau de la division. Alors, au niveau de la division, c'est très vrai, qu'il s'agisse du bien dans son extension, la division joue. Il s'agit de montrer que dans l'extension du bien, il y a trois manières pour le bien d'exercer son appétibilité. Il y a trois manières pour le bien d'exercer son appétibilité. Mais ça peut très bien rester au niveau de l'extension et pas au niveau de la ratio. Alors, troisième difficulté, troisième objection, il est admis que là où une chose tire sa raison d'être d'un autre, elles ne font pour ainsi dire qu'un et doivent donc être rangées ensemble. Or, l'utile n'est appelé bon qu'à cause de l'honnête ou du délectable auquel il mène. Il ne doit donc pas être opposé dans une division. Alors, quant à l'inconvénient dans cette exacte division de la dépendance du terme d'un terme par rapport aux autres, il n'a pas cours ici, car notre division ne se présente pas comme univoque, c'est-à-dire que la notion du bien n'est pas appliquée à ces trois termes ex aequo. Donc, bonum individutur in tria ista sicut univocum equalitaire de eis predicatum. Sed sicut analogum. Vous voyez, là encore, la traduction précise ce que saint Thomas ne dit pas. Saint Thomas ne dit pas ratio boni. Il dit bonum. Donc, ça peut être uniquement le bien in communi. Le bien n'est pas divisé dans ces trois. Tandis que dans la traduction, on est ratio. Ce qui montre qu'on n'a pas très bien compris. Car notre division ne se présente pas comme univoque, c'est-à-dire que la notion du bien, il faut biffer notion du bien, il faut dire le bien, n'est pas appliquée à ces trois termes d'une façon égale, mais en vertu d'une analogie fondée précisément sur ces dépendances. L'idée de bien, alors l'idée du bien, c'est pas l'idée du bien, c'est le bien tout court, s'applique d'abord à ce qui a valeur par soi. Per primus enim predicatur de honesto. C'est pas l'idée du bien qui est attribuée d'abord à l'honnête, c'est le bien qui est attribué d'abord à l'honnête. En second lieu au délectable et en troisième lieu à l'utile. Donc ce troisième aspect montre simplement qu'il s'agit de bien comprendre que cette division est une division analogique et non pas une division univoque. Mais ça ne nous donne rien de plus. Bien évident que c'est une division analogique. Elle implique un certain ordre. Le bien n'est pas dit également de l'honnête, du délectable et de l'utile. Mais il est dit de l'honnête, du délectable et de l'utile selon un certain ordre. Per prius, secondario, tertio. Il est dit donc d'abord, en premier lieu de l'honnête, en second lieu du délectable et en troisième lieu de l'utile. Mais c'est le bien, c'est pas la ratio boni. Donc vous voyez, il reste une petite question, hein. C'est très délicat, je crois que c'est ça qui est le plus éclairant. Cette analogie de Saint-Thomas, ça c'est le plus éclairant. Parce que c'est l'être qui se divise en dix prédicaments. C'est pas la ratio en dix. La division des prédicaments n'est pas la division de la ratio en dix. C'est la division tout simplement de ce qui est en tant qu'il existe. Le bien en tant qu'il existe. Comme bien. Donc la division des dix prédicaments est analogue à celle du bien honnête, du bien délectable et du bien utile. C'est ça qui est intéressant, en effet, de poser la question. C'est que ce qu'apporte cette distinction en plus, c'est que pour Aristote, vous avez ceci. Aristote n'a pas fait de philosophie du bien. Aristote a même fait la philosophie du bien humain. Et Aristote parle du bien en métaphysique à propos de sa métaphysique de l'acte. Donc, il parle du bien honnête, qui est le bien du bien humain, c'est le bien qui finalise l'éthique. L'éthique ne regarde pas le bien en soi, et là, il critique Platon, elle regarde le bien humain. Toute l'éthique est finalisée par le bien humain. En métaphysique, Aristote regarde le bien dans la lumière de la division d'être en acte et d'être en puissance. Mais il ne va pas beaucoup plus loin. Donc il regarde uniquement le bien au point de vue métaphysique sans dire plus. Et cette division est au niveau du bien humain. Alors, je crois qu'on peut dire ceci, hein, récapituler. Pour saint Thomas, parce que toujours, quand il s'agit de l'intelligibilité, saint Thomas nous dit qu'il faut regarder en premier lieu Ens, puis le bien. Ce qui est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Le bien est second dans l'ordre de l'intelligibilité. Le bien est premier dans l'ordre de la causalité, et l'être est second, ce qui est second dans l'ordre de la causalité. Le bien est premier dans l'ordre de la causalité. Ça, c'est ce qu'il y avait des biens. Quand il s'agit de l'ordre de l'intelligibilité, or toute division se prend du côté de l'intelligibilité. Forcément. On divise pour supprimer une confusion. C'est pour ça qu'on divise. Autrement, on ne divise pas. Vous ne divisez jamais quand vous êtes en face de quelque chose qui n'est pas divisible. C'est-à-dire qui est immédiatement intelligible. Or, n'est immédiatement intelligible que ce qui n'implique aucune potentialité. Toute potentialité est quelque chose qui amène à confusion. Donc, on divise quelque chose qui est divisible, hein, par définition. Et ce qui est divisible implique une potentialité. Autrement, il ne serait pas divisible. Vous ne pouvez pas diviser Dieu, parce qu'il est l'acte pur. La division porte toujours sur quelque chose qui implique une potentialité. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, qui est dedans. Or, l'être, vous pouvez le regarder de deux manières. Vous pouvez regarder l'être pris in commune. Quand vous prenez l'être d'une façon commune. En général. Et puis, vous pouvez regarder la ratio éthique. Quand vous dites que la métaphysique regarde ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est en tant qu'il est. Est-ce que c'est la ratio éthique? Ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est. Existe. La ratio existe. Est-ce qu'elle existe? La ratio existe, c'est l'intelligence qui la saisit comme ce qu'il y a de radical et plus radical. La ratio existe, n'existe pas. Ce qui est, elle existe, c'est concret, elle existe. La ratio existe, c'est ce que c'est concret. Comme quoi on est obligé là de. Alors, n'y a-t-il pas la même distinction qu'on fait? Le bien in quantum bonum. Le bien en tant que bien. Donc, ce qui est bon, en tant qu'il est bon. Puis la ratio commune. Je comprends très bien qu'après avoir étudié la ratio commune, on en arrive à regarder ce qui est bon en tant que bon. La division qu'on prend, regarde ce qui est bon tant qu'il est bon. Et pas la ratio bonum. L'ens in quantum ens, les dix prédicaments. La ratio ens, c'est quelque chose de plus radical et plus profond.
Allez-y, allez-y, corrigez.
La ratio ultis comme telle est quelque chose de plus radical sous le niveau critique. Ici, je suis au jugement d'existence, tandis que la ratio bonum est au niveau critique. Et là, de même, la ratio ultis comme la ratio bonum. Tandis que ce qui est bon et ce qui est bon implique l'existence. Vous voyez? Et je crois que tout est là. Alors évidemment, saint Thomas ne nous fait pas beaucoup de précision là-dessus. Toute la question était sur la ratio boni. Subitement, l'article 6, on change de vitesse. Alors, changement de vitesse, ça fait du pétard. Alors, changement de vitesse, c'est ce qui est bon vu en tant que bon.
l'index
qui en 34. Vous voyez ? Alors je crois que c'est ça qu'on doit réfléchir. On doit réfléchir là-dessus. Pour essayer de comprendre cet article qui autrement est incompréhensible. Il est incompréhensible. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Si je suis en face de ce secundum cuivre, et puis cet aspect subjectif dans la ratio venue, c'est très très difficile à comprendre. La ratio itis comme telle est quelque chose de plus radical, c'est au niveau critique. Ici, je suis au jugement d'existence. Tandis que la ratio venue est au niveau critique. Et là, de même, la ratio itis comme la ratio venue. Implique ce qui est bon, et ce qui est bon implique l'existence. Vous voyez ? Et je crois que tout est là. Alors évidemment, Satoma ne nous fait pas beaucoup de précision là-dessus. Toute la question était sur la ratio venue. Subitement, l'article 6, on change de vitesse. Alors, changement de vitesse, ça fait du pétard. C'est ce qui est bon vu en tant que bon, tandis que ce qui est en tant que